Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
Cube Radio.
Alors, Vincent, plusieurs dossiers de menaces contre des dirigeants.
Oui, et c'est quand même, on le sait, là, symptôme un peu de ce qu'on vit actuellement, une hausse de tension, des gens qui ont des difficultés à passer à travers la crise et qui deviennent très agressifs souvent sur les réseaux sociaux, au point que ça devient des menaces de mort. Et on en a vu une série là dans les dernières semaines. Dans certains cas, les policiers doivent intervenir. Et là, celui qui avait menacé Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, a été accusé par le passé de d'autres menaces de mort à des personnalités publiques. L'homme qui a été arrêté donc derrière la bibliothèque Étienne Parent-Beauport hier, qui aurait donc menacé Geneviève Guilbeault.
Il était arrêté, il était armé, la police a utilisé le taser gun.
Oui, d'ailleurs, c'est là qu'on paru par voie téléphonique alors qu'il était à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Lui qui est âgé de 51 ans, là, Jean Darvaux, a été mis en lien avec le palais de justice de Québec et rapidement la procureure qui a demandé à ce qu'il subisse une évaluation sur son aptitude à comparaître. Alors on peut penser que c'est difficile. Elle sera de retour devant le tribunal le 27 octobre. Et donc ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'en 2017, Darvaux avait été arrêté une première fois pour des menaces faites à Guy Nantel, donc des menaces de mort. Quelques semaines plus tard, en avait fait d'autres, cette fois à Mike Ward et à l'homme d'affaires, notre collègue François Lambert. Alors, on comprend que...
Le fil conducteur est pas...
T'es dur à trouver, là.
Mike Ward, Guy Nantel, François Lambert, Geneviève Guilbeault, ouais.
Alors, on verra d'ailleurs, il y aura évaluation de son cas pour voir s'il est apte à comparaître. Et du côté d'Horacio Arruda, le directeur de la santé publique, bien, il doit être sous protection policière. En même temps, un certain temps qu'on surveille, là, puisqu'il est la cible de plusieurs menaces. Mais là, la protection a été offerte par la sécurité publique en raison de plusieurs menaces, autant passées qu'actuelles. Alors, il est accompagné d'un garde du corps maintenant, en tout temps. On sait qu'il y a des manifestants, entre autres anti-masques, qui avaient ciblé sa maison la semaine dernière.
Il y a quelqu'un qui vient d'être, c'est la presse qui dit ça, Valérie Plante aussi. Quelqu'un vient d'être accusé ou...
De menace.
Ouais.
Alors,
même chose.
Mais ça rappelle toujours, c'est des humains là, qui s'occupent, qui sont en politique ou dans ce cas-là de la santé publique, puis ça doit être difficile à vivre là, quand t'as de la famille à la maison.
Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui s'en est pris aux détaillants. En fait, c'est que la commission parlementaire sur la consigne commence aujourd'hui. Les détaillants qui avaient lancé une première offensive hier soir, là, un peu en préparation de ça, en disant, le contribuable va payer 300 millions par année pour ça, la consigne élargie.
Oui, et là, effectivement, cette commission parlementaire qui va entendre les différentes opinions sur cette consigne élargie, là, où on verra entre autres les pintes de lait, jus, des bouteilles d'eau, des bouteilles de vin qui soient progressivement consignées d'ici 2022. Mais à travers tout ça, le Conseil canadien du commerce de détail qui, selon leur avis, les citoyens vont débourser près de 300 millions de dollars de plus annuellement pour leurs achats en raison de cette consigne. Benoît Charrette, ministre de l'Environnement, dit que c'est faux, accuse carrément les détaillants de faire peur au monde. Il dit que cette réforme-là, au fil des années, a déraillé à plusieurs reprises, toujours sous l'impulsion du Conseil canadien du commerce de détail. Dit qu'on oublie là que l'argent va revenir dans les poches du consommateur lorsqu'il ira porter sa consigne.
Évidemment une partie parce que les bouteilles de bière présentement ils les prennent même plus à l'épicerie là. Ils en prennent quelques-unes. Si ta caisse est parfaite, si t'as une caisse de Corona, il faut que tu la ramènes 24 Corona lavées. Si t'en as cassé une, t'en ramènes 23.
Ils prennent rien.
Non, la caisse au complet, l'envoie aux poubelles.
Mais après ça tu fais une autre place, Mario. Tu fais la ronde de lait.
Ah ouais, non,
pour aller porter tes bouteilles.
Non, mais il y a plusieurs... Les heures sont restreintes, donc on ramasse... Mais je trouve ça intéressant, on veut élargir la consigne. On n'est même plus capable de faire le ramassage... À cause de la pandémie, peut-être, temporairement, mais on n'est même plus capable de faire le ramassage qu'on faisait.
Faut dire qu'effectivement, du côté des entreprises qui vont devoir assumer des frais que Benoît Charrette évalue à peu près 2-3 sous là par contenant, ça ne leur plaît pas nécessairement. Pour ce qui est de l'échéancier, alors que plusieurs demandaient d'avoir un délai, c'est non pour le ministre de l'Environnement, qui est n'a absolument pas l'intention de reporter l'entrée.
Lui veut montrer aux environnementalistes sur ce point-là qu'il se tient debout et qu'il fait quelque chose. Mais moi, j'ai plusieurs... plusieurs blocages avec ça. D'abord, moi, le bac bleu, je suis peut-être niaiseux, mais j'y ai cru. Là, on m'a vendu qu'on me simplifiait la vie, parce que l'ensemble des matières, le verre, le plastique, on mettait ça dans un bac bleu. Mais les gouvernements, toutes couleurs confondues, qui m'ont vendu ça, mais moi, je m'attendais à ce qu'eux investissent massivement dans les meilleures technologies des centres de tri. Mais il y a encore du tri qui se fait à main, la vitre est tout cassée, le plastique, on sépare ça à moitié, on en met une grosse partie, ça retourne au vidange. Fait que là, on dit maintenant, ben tout ça, là, le bac bleu, ça marche pas. Fait que sortons le plus de matière, les bouteilles de plastique, les bouteilles de vin, sortons le plus de matière possible du bac bleu. Est-ce que je vais avoir une réduction de mes taxes municipales? Parce que moi, ma ville ramassait le bac bleu, là.
Ouais, toi, t'aimerais un retour, là. Je suis prêt à payer la consigne, mais...
Ben oui. Mes taxes municipales devraient baisser, c'est pas logique?
Oui. Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ça?
Ouais. Ben là, poser la question, c'est y répondre. Mais tu sais, là, on renvoie de l'ouvrage au consommateur, parce que ça va être quand même tout un tri, toute une quantité de matière à ramener à l'épicerie. Ça va être les pintes de lait, les bouteilles de jus, tout ce que tu veux.
J'imagine la file à l'épicerie, là, avec tes cartons de lait,
ça on leur prend pas. Ouais. Ce jus d'orange-là, on leur prend pas. Ça, c'est pas une marque qu'on vend ici, là. Comme ils nous font avec les bières de microbrasserie.
Tu vas toujours revenir avec un 20% de ton sac, là.
Mais tu vas finir au... Mais tu sais, c'est... Fait que là, le trouble revient aux citoyens, puis l'argent est déboursé par le citoyen. Puis le citoyen sera pas compensé, on ne baissera pas sa taxe municipale. Fait que
Tu penses qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre dans le bac, puis ça va être tout, là. Ils vont assumer la perte.
Le concept est beau, là, mais c'est ça. T'sais, on n'ose pas dire la vérité, hein, pour le citoyen. Mais enfin, je comprends que dans le cas du commerce de détail... Eux, ils ont toujours détesté ça. Ils ont profité de la pandémie pour en ramasser le moins possible parce qu'eux, ils disent, nous, là, mettons que tu étais un IGA ou un métro, t'as construit une certaine superficie d'épicerie. Pourquoi? Pour vendre l'épicerie. Puis le bag store, tu sais, l'arrière-boutique, là, c'est pourquoi? C'est pour stocker de la marchandise. Fait quand on te dit qu'un pourcentage de plus en plus grand, ce que tu vas avoir, là, c'est des immenses sacs, tu comprends, plein de canettes écrasées ou plein de bouteilles. Ben, t'es pas content. Je veux mettre dans leur peau, t'es pas content de ça. Bon, là, tu peux dire t'as une responsabilité environnementale dorénavant, il faut récupérer les matières, puis c'est un peu ce qu'on leur dit. Mais on peut pas s'étonner qu'ils soient pas contents. Mais le citoyen, lui, il est pogné entre les deux, là. T'as des gens qui veulent pas récupérer la matière, t'as le gouvernement qui veut qu'on la récupère, nous on paye, puis on est pris entre les deux, puis on nous met pour nous décourager, dans le fond, les épiceries, c'est ça qu'ils font, là, pour nous décourager à ramener les bouteilles, là, ils nous mettent ça le plus compliqué et le plus merdique possible. Là, nous, on est coincés, là. On nous demande d'être un bon citoyen. Hey, t'as dit que la consigne, moi, là. Bon. La motion We Charity. Donc, on en a parlé à l'ouverture d'émission.
J'avais promis de vous faire entendre l'extrait.
Metzing ne veut pas nous amener en élection.
Non. Vous rappelez donc la motion conservatrice pour la création d'un comité spécial visant à faire la lumière sur toute l'affaire We Charity. Les libéraux en ont fait un vote de confiance. Alors, on aurait pu tomber en élection sur cette question-là. D'ailleurs, le Bloc avait appuyé rapidement la motion des conservateurs. Alors, tout ça reposait sur le NPD.
C'est ça.
Si le NPD, n'appuyez pas le gouvernement, on tombe en élection. Par contre, Jack Meet Singh s'est levé, Mario.
Oui.
Il s'est levé pour dire non à Justin Trudeau. C'est pas vrai que vous allez aller en élection sur cette question-là. Je vais vous faire entendre un extrait du point de presse de M. Singh.
Je ne comprends pas comment le premier ministre va regarder ces gens dans les blancs des yeux et dire « Oui, je sais que vous avez des inquiétudes, vous avez peur, mais... je vais plonger le pays dans une élection à cause d'une comité. » Je ne comprends pas comment il peut expliquer ça. Donc, s'il veut avoir une élection, ça va être seulement à cause de lui. Donc, il doit avoir le courage de dire ça.
Alors, ne laissera pas Justin Trudeau nous plonger en élection.
Et
alors,
pour ce faire, il va l'appuyer.
Il va appuyer Justin Trudeau.
Pour l'empêcher de partir en élection,
oui.
Il va supporter...
C'est surtout pas parce que Justin Trudeau était certain que le NPD allait l'appuyer, mais c'est un désir d'aller en élection. Alors voilà.
Bon. Aux États-Unis, ils y sont en élection et Melania Trump, qui a dû annuler sa présence, elle n'en fait pas beaucoup d'activités partisanes, mais là, elle en faisait un peu quand même en appui à son mari.
Mais pas beaucoup, Mario, c'est vraiment pas beaucoup. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'est en 2019. Pour une activité de campagne, on s'entend que c'est tellement long, mais disons une activité partisane, ça fait plus d'un an qu'on l'a pas vu. On devait la voir donc en Pennsylvanie aujourd'hui, et finalement c'est annulé parce que Melania Trump, la première dame, a des symptômes encore de la COVID. Elle a testé négatif, là, elle est négative, mais elle a une toux persistante. Alors on a décidé par excès de précaution, là, au dire de son de la porte-parole, qu'elle ne voyagerait pas. Alors, Melania Trump, qui avait écrit il y a quelques jours là un texte là, disant son expérience de COVID, que ça avait été des montagnes russes, donc ça avait été des fois plus difficile, des fois plus léger, qu'elle avait eu des douleurs musculaires, une toux, des maux de tête, qu'elle s'est sentie très fatiguée. Alors, qu'elle disait aussi qu'elle avait subi, elle, pas de traitements expérimentaux comme Donald Trump, mais plutôt de la nourriture saine et des vitamines, par exemple. Alors, elle va pas encore très bien. Fox News, je lui ai demandé ce matin au président Donald Trump comment allait Melania. Il a dit très bien.
Mais moi, si je suis Joe Biden, là, j'attaque fort là-dessus. Dans le sens que le président Trump, toutes les simagrées qu'il a fait sur le fait de la COVID, il était passé par-dessus. Mais, si tu viens en couple, là, et toi, mettons le couple, les deux tombent malades. Là. Toi, t'es guéri, tu vas mieux. Mais que ton conjoint ou ta conjointe subit encore des conséquences ou encore vit encore avec des séquelles, est-ce que tu t'épivardes à rire de la maladie, pis à dire c'est pas grave, pis à dire je l'ai vaincu, pas... Hey, moi, si j'étais Joe Biden, je serais là-dessus, au moins jusqu'au débat de jeudi soir, là.
Sur le fait qu'il se fout de sa femme.
Il est sans cœur.
Parce que lui, la COVID, c'est rien, mais sa femme est encore à la maison.
Demandez-vous pas pourquoi il se fout de tous les Américains et de la COVID, là. Il se fout même de sa femme qui vit encore avec les conséquences de la COVID.
Lui, il danse, puis il fait le fanfaron sur scène, alors que sa femme est encore à la maison.
En disant que la COVID, c'était pas grave. Alors que lui a coûté des frais d'hospitalisation importants, là, puis en tout cas.
Parce que Trump, ben, fait, faut dire, du côté de Biden, Mario, il est à la maison. Encore
prépare
aujourd'hui.
Son débat.
Oui, prépare son débat. Alors, rien à son agenda, évidemment, pour Donald Trump, ça lui permet de l'attaquer, disant qu'il se cache encore dans son sous-sol. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Trump était féroce envers l'ancien vice-président, disant que les Biden, c'est une entreprise criminelle, carrément, la famille Biden, sur, évidemment, l'affaire de son fils Hunter Biden, que c'est une famille de corrompus et compagnie. Alors, rouler là-dessus pas mal toute la journée. Et à la place de Joe Biden, qui fait effectivement prépare son débat, qui arrive très bientôt. Jeudi, le dernier et deuxième débat entre Joe Biden et Donald Trump. Ben, c'est Barack Obama qu'on verra davantage. Premier meeting de campagne pour soutenir son ancien collègue, donc à deux semaines des élections. Ça se fera dans un drive-in, alors un peu comme on a vu dans certains town hall meetings. Là. Alors, l'ex-président va participer à un meeting en voiture à Philadelphie, évidemment un autre état clé qui sera important de gagner pour les démocrates. Faut dire que Donald Trump avait remporté cet État par une faible marge en 2016. Et là, les sondages donnent Biden gagnant, mais par 3,8% selon la moyenne des sondages. C'est pas énorme. Alors, c'est pour ça que Obama va se diriger dans un endroit aussi critique.
Ouais, non, parce que les sondages nationaux sont excellents pour Biden. Mais, tu sais... La Pennsylvanie, la Floride, des deux plus gros États-clés en nombre de population, donc en grands électeurs, c'est pas gagné, là. C'est-à-dire, t'aurais un petit écart du taux de participation, etc. Puis Trump part. Et si Trump part avec ces deux-là, c'est plus la même course pour les autres. Il y a d'autres États plus petits. Donc c'est pas joué complètement.
Faut rappeler que c'est vraiment le jeu des États et pas seulement le pourcentage. Ouais. C'est de plus en plus ça, oui.
Il y a la SAQ qui veut améliorer sa livraison.
Ouais, ceux qui ont utilisé depuis la pandémie peut-être davantage le service de SAQ en ligne qui était peut-être moins utilisé. On sait que ça a monté beaucoup.
Ça prend une bonne semaine. Là.
Ouais, ben d'ailleurs en plein cœur de la pandémie, il y avait de bons délais. Là. Évidemment, c'est pas de la faute à la SAQ. On travaille avec Post Canada.
Je m'en suis servi quelques fois là, c'est une bonne semaine.
On travaille avec Post Canada et Puro Later. Alors, dépendamment d'où on est, il y a eu certains délais. Aujourd'hui, la PDG de la SAQ, Catherine Dagenais, qui a fait une conférence web pour expliquer un peu
avec
à la Chambre de commerce.
Avec Post Canada, c'est quand la caisse arrive, il augmente le prix. Parce que les vins ont vieilli, là, tu comprends?
Que c'est évalué à tel prix, mais là, on va rajouter une semaine de vieillissement. On va, il majore.
Oui, il majore. Les prix, je les écoutez, là. C'est un vin qui a pu vieillir un peu, là.
Depuis qu'il est dans l'entrepôt au sommet de la montagne, là, il a monté. Donc, l'objectif de la SAQ, sachez-le, dans les trois prochaines années, c'est de développer un service de livraison géré par la SAQ. Donc, ne pas seulement utiliser les services de gens implantés comme Post Canada ou Puro Later pour faire des livraisons en 24 heures, comme le fait la SQDC, qui ont un service pas automatique, là, faut payer pour, mais un service de livraison rapide. Alors, on sait que c'est de plus en plus utilisé. Alors, on veut développer ce réseau-là, ce qui va impliquer des modifications importantes aux entrepôts pour les rendre plus modernes et tout ça. On veut tripler, en fait, dépasser le cap des 200 millions de dollars en vente en ligne à la SAQ. Aussi, Mario, augmenter le nombre de produits. Là, pour l'instant, c'est juste 30% des produits qui sont en vente. On voudrait en rendre beaucoup plus disponibles sur le web.
Question fondamentale, à quel âge notre cerveau atteint son pic de performance? Je sais pas la réponse à ta question, mais je suis sûr que c'est avant 50 ans.
T'es pas mal sûr que t'es dans le déclin.
Je suis dans le déclin, là, j'ai pas de doute.
Bon.
Pas le moindre.
Parce que, à l'Institut Polytechnique de Paris, on dévoile aujourd'hui, et c'est publié, là, une étude sur le cerveau. Où, normalement, dans les études, là, sur savoir notre cerveau atteint quand sa pleine maturité, on dit middle age, là, 35 ans, ça, on monte jusqu'à là, puis après ça, ça redescend. Comme une espèce de V, ouais. Là, inversé. Une montagne. En étudiant les performances de joueurs d'échecs dans les 125 dernières années, là, ils ont étudié 24 000 professionnels d'échecs,
okay,
pour étudier leurs coups au fil de leur vie pour comprendre où est-ce, à quel moment dans leur vie ils étaient les plus brillants. Et ce qu'on découvre dans leur conclusion, c'est qu'à un peu avant 20 ans, là, mettons, jusqu'à 20 ans, ça monte vraiment vite, là, les capacités du cerveau, on le comprend.
Ouais.
Ensuite, à partir de 20, ça continue de monter, mais très tranquillement jusqu'à 35. Donc, à peu près comme on avait avant, mm-hmm, dans les études. Ce qu'il y a de différent, c'est qu'on atteint un plateau. Alors, entre 35 ans jusqu'à 45. On est au même niveau.
Alors, là, t'es exactement là, là.
Je suis dans mon pic pour encore un bout, là. J'ai encore 9 ans à faire.
T'as une décennie dans ton pic, là.
Mais, donc, on, au lieu de voir comme 35, puis après ça, c'est le lent déclin, ben, quand vous atteignez 35, dites-vous, vous avez une décennie devant vous de pleine capacité. Puis ensuite, ben,
comprends que tu voulais m'en parler de cette étude-là, toi.
Je sais, oui. Alors, mais ensuite, ça descend quand même doucement, là.
Bon.
Puis, pour certains, des fois, vraiment, ça continue, là. Alors, à suivre, mais sachez-le, votre pic est plus long que prévu. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité.
Non, on le sent sur la mémoire, sur bien des choses, là. Y'a-tu bien des affaires qui atteignent leur pic passé 50 ans?
Oui, mais le futur président des États-Unis va avoir au-dessus de 74 ans, Mario.
Ouais, c'est ça.
T'es correct.
Merci.